Les contes sont inspirés par le sol même, une sorte de sens qui en émane, une vérité qui naît du regard patient de l'homme sur les choses, sur les lieux et les êtres de son univers familier. La légende est ce qui permet à l'homme d'habiter le monde. Bienvenue à tous, vous écoutez La Pensée des Peuples sur RDIWA 107.5. Je vais vous présenter quatre contes des sages aborigènes, relatés par Céline Ripoll. Un petit mot de l'anthropologue Martin Préau sur ce peuple. Ces gens n'ont pas construit de cathédrale de pierre que tous peuvent admirer. Les cathédrales qu'ils ont construites, ce sont leurs rêves, leurs lois, leur vie en harmonie avec le monde qui les entoure. Et si tu n'entres pas dans leurs pensées, tu ne peux voir ce qu'ils ont bâti. Les contes qui vont suivre nous parlent de nature, de mort et d'amour. La réponse de Nunjena. Bayam avait fait la terre et toute chose vivante. Les plantes, illuminées par Oui, la déesse du soleil, et encouragées par Nunjena, esprit gardien de la nature, s'épanouissaient. C'était là un spectacle magnifique. Mais ces créations, libre interprétation des trois désirs primordiaux, avaient fait jaillir la jalousie de l'esprit malin des mondes inférieurs, Armo. Face au charme et à l'élégance de l'ouvrage du grand esprit, Armo, en rival de Bayam, ne parvenait pas à se réjouir. Puisque Bayam a fait œuvre de grande création, moi, Armo, je ferai œuvre de grande destruction, se répétait-il. Un jour, bien à l'abri des regards, tapis au fond de sa grotte, il conçut une tribu d'êtres capables de voler, ramper, ronger. Insectes, parasites et vermines constituaient son armée de combattants. Les premiers étaient à l'image de son dessin, sombres, visqueux, nauséabonds. Puis, pris par la folie créatrice, il les affubla de dards, crochets, pinces, leur donnant des couleurs extravagantes, jouant des motifs sur leur carapace ou leur peau, tantôt lisse, tantôt velue. Quand la horde fut lâchée, les larves se collèrent aux feuilles qui se recroquevillèrent ou furent dévorées. Elles se mirent alors à jaunir, tombèrent, laissant les arbres et les arbustes comme des squelettes secs dans le vent. Armo jubilé. Nunjena vit que les bourgeons pourrissaient sur eux-mêmes. Les fruits étaient rongés de l'intérieur, les troncs des arbres s'émiettaient, les racines des plantes, creusées de galeries, laisser gagner la gangrène. Tiens, la terre se dénudait. Privée de sa peau végétale, elle devenait poussière, une terre stérile. Nunjena vit ceci. Nunjena en fut désolée. S'adressant à Bayam, la délaisse de la nature, elle dit « Je ne peux rien contre l'esprit de Armo. L'esprit de Armo existera toujours. Il ne sera jamais détruit. Je pourrais l'affronter et le pulvériser en millions de petits morceaux. Mais ces millions de petits morceaux seraient comme des graines plantées, et l'esprit de Armo renaîtrait des millions de fois plus nombreux. Que faire avec celui qui vit dans le monde de la jalousie, de la rivalité, de l'envie ? Regarde l'eau, répondit le sage Bayam, regarde la bienfaitrice, l'insaisissable, l'intarissable. Elle règne sur ce qui est de plus dur au monde, la roche. La roche, face à la puissance de l'eau, ne se fait pas plus dure, non, elle se fait caillou, puis sable. Mais même grain de sable, elle reste solide. Alors, contre l'insecte qui vole ou saute, Nunjena ne ferma pas les fleurs. Contre celui qui rampe, elle ne rendit pas la tige plus lisse. Contre celui qui ronge, elle ne fit pas l'écorce plus dure. Non. Elle dissimula le cœur des fleurs et créa l'oiseau au long bec afin de picorer ceux qui y pénétraient. Elle dota la grenouille d'une grande langue collante pour qu'elle ne rate pas sa proie. Elle allongea les griffes et affina l'odorat de celui qui mange le ver. Telle fut la réponse de Nunjena face aux outrages de Armo. Elle offrit au monde une subtile beauté. Thank you. enfant fleur. Ma sœur, je ne peux te cacher cela plus longtemps. Te souviens-tu de ce jour où nous nous promenions au printemps, dans cette grande plaine où les fleurs abondent? C'était lors du premier printemps du monde. Nous marchions main dans la main, nous cherchions des racines pour satisfaire notre faim. Je me suis éloignée pour regarder une étrange fleur. Je ne savais pas qu'à l'intérieur j'y trouverais un grand bonheur. J'ai cueilli la fleur au visage d'enfant et l'ai cachée pour la retrouver secrètement chaque fin de journée. L'été passa, puis l'automne vint. La fleur fana et mon bonheur se retrouva sans rien. Un matin, j'ai volé, je l'avoue, ta peau d'opossum pour en recouvrir le dos de mon petit homme. L'enfant m'a souri. J'ai souri, moi aussi. Je l'ai pris dans mes bras. Il était heureux et il avait tant grandi. Aujourd'hui, je ne veux plus te le cacher. Si cet enfant n'a pas de père, peut-il avoir de maman? Soyons deux pour jouer. Deux pour préparer à manger, l'une pour le faire courir, l'autre pour l'endormir. Apprends-lui à reconnaître les empreintes des animaux, je lui enseignerai à pêcher dans un cours d'eau. Je ne veux pas être seule à lui tenir la main. Il faut toujours deux côtés pour border un chemin. Nos enfants sont des fleurs sur lesquelles nous devons veiller pour qu'à leur tour, ils donnent des graines à maturité. Viens, ma sœur, marchons main dans la main. Notre enfant nous attend. Il est notre lendemain. Le vieillard et la lune. En ce temps-là, les animaux étaient hommes et femmes. La lune veillait sur chacun. Quand l'un d'entre eux laissait ses forces l'abandonner, elle s'approchait de lui, dans l'obscurité de la nuit, avant de murmurer. « Toi qui viens de fermer ton corps au souffle de la terre, ouvre-toi. Dans le ciel brille toujours la lumière, qu'elle soit soleil, lune ou étoile. Prends de cet éclat, et comme la poussière du désert, pose-le sur le bord de tes paupières et réveille-toi. Il y a la rivière, il y a la pluie, il y a la mer. Aucune eau ne meurt. Elles répondent toutes à mon appel. Alors relève-toi. » Tout en disant cela, la lune brillait très fort, si fort que celui qui venait de mourir se redressait avant de se remettre à marcher. Un jour, un vieillard, mort plusieurs fois, mourut à nouveau. La nuit venue, l'astre bienveillant lui ordonna pour la énième fois de se relever. À grand-peine, celui-ci s'assit et, tournant son visage vers le ciel, répondit « Lune, tu es magnifique. J'ai pris autant de plaisir à ouvrir mes yeux, le jour comme la nuit. À chaque fois que tu m'as parlé, je t'ai écouté. Mais aujourd'hui, laisse-moi mourir. Je suis fatiguée. Je ne peux pas faire comme toi, revenir et briller sans cesse. Mon corps n'est pas le tien. Il ne réapparaît jamais jeune et brillant. Si mon esprit pétille toujours comme un feu, mon corps, lui, est devenu comme la branche dans le bûcher. » Puis, étirant ses bras maigres vers la lune, il continua. « Le bois porte le feu en lui, les hommes aussi. Mais la branche, sous le poids du temps, se fend, craque, tombe puis sèche. Ainsi est mon corps. C'est le temps du feu ultime. Le bois rougit, blanchit. Il n'a plus de force pour flamber. Le feu s'éteint. La branche devenue cendre nourrit la terre pour nourrir la pousse nouvelle. Alors laisse-moi mourir pour pouvoir revenir. Si tu veux pour moi un corps qui demeure, je rentrerai dans la pierre. Sinon, j'irai dans celui d'un nouveau-né pour continuer mon chemin. À ces mots, la lune s'obscurcit un instant, laissant le vieillard s'allonger comme l'ombre d'un arbre et fermer ses yeux. Après tout, ne disparaissait-elle pas, elle aussi, quelques nuits pour revenir à la vie? C'est ainsi que la mort devint, pour les hommes, un imprévu attendu de longue date, permettant à leur esprit de trouver un temps de repos, avant d'habiter d'autres corps d'humains ou d'animaux. Les couleurs de l'amour de Bibi. Viens avec moi, je suis assez vaillant pour vous nourrir, toi et tes quatre enfants. Suis-moi sur ma terre, je suis assez fort pour vous protéger, toi et tes quatre enfants. Regarde en moi, j'ai assez d'amour pour illuminer vos jours, les tiens et ceux de tes quatre enfants. Ces mots, Bibi les répétait sans cesse à la fine Déréré qui avait enflammé son être. Mais la jeune femme n'osait lever les yeux, elle avait peur. Elle avait perdu son mari et, après la tristesse, c'était la peur qui l'avait envahie. Les arbres frémissants lui faisaient peur. Les animaux venant s'abreuver là où elle venait de puiser de l'eau lui faisaient peur. Son ombre dansant à la lueur du feu lui faisait peur. Elle avait peur du vent, de la pluie, de la nuit, des esprits, de celui de son défunt mari, et peur de lui. Bibi était si massif. Il était du même sang que le pic vert, avait un cou trapu, de grandes mains et de larges pieds. Elle n'arrivait pas à lui dire oui. Parfois, la nuit, Bibi se cachait non loin de là où elle dormait. Il l'entendait murmurer au milieu des lourds sanglots. « Déréré, calme-toi. Déréré, ne crains rien. Déréré, il y a tes enfants. » C'était ce qu'elle se répétait pour se rassurer. Et Bibi écoutait impuissant. « Si je la brusque, pensait-il, si je la force à me suivre, elle sera comme l'animal que le chasseur a traqué et laissé échapper. Plus jamais elle ne se laissera approcher. Et se cachera dès qu'elle entendra mes pas. » Bibi ne savait que faire. Il aurait voulu courir vers elle, la prendre dans ses bras, la rassurer de son étreinte, mais il savait qu'elle aurait peur. Alors, il se contentait de rester dans l'ombre de la nuit, veillant sur elle et ses enfants, même quand elle s'était enfin assoupie. Au matin, il leur apportait de la nourriture, parfois de l'eau, parfois du feu, quand le sien s'était éteint. Timidement, elle le remerciait. Cet homme, se répétait-elle, est le reflet de ses mots, vaillant, protecteur. Mais qu'adviendra-t-il de nous une fois que j'aurai accepté? Que fera-t-il de moi et de mes enfants? Ses mains sont énormes. Et sa voix, si calme, si rassurante, ne s'élèvera-t-elle pas contre nous? Déréré ne parvenait pas à chasser les douloureux nuages de doute et de peur qui l'envahissaient. Un matin, le désarroi de Bibi fut immense. Toute la nuit, Déréré avait poussé de lugubres gémissements. Alors il décida d'agir. « Je suis un bâtisseur, se dit-il en lui-même. Pour elle, j'irai par-delà les montagnes, là où le ciel et la terre s'embrassent. J'y inventerai des couleurs que nul n'a jamais vues. J'en tracerai un chemin pour notre amour et elle oubliera sa peine. » « Déréré, lui confia-t-il soudainement, je pars. Je te laisse seul dans le brouillard de tes pensées. Durant mon absence, porte ton attention sur les amas de pierres que tu as mis autour de toi. Démantèle ce rempart, pierre après pierre. Aucun oiseau ne peut voler les plumes mouillées de larmes. Quelle route enseigneras-tu à tes enfants, une roche accrochée aux pieds? Tes ailes sont encore belles, libère-toi. Je m'en vais au plus profond du ciel bâtir un monde où tu pourras à nouveau chanter tes rêves. Déréré le suivit des yeux aussi loin que son regard pouvait s'étendre. Puis elle le vit disparaître. Nul ne sait combien de temps Bibi partit, ni où il s'arrêta pour mettre en œuvre sa promesse. Mais un matin, dans les chaudes lueurs du soleil rasant, Déréré le trouva assis, enveloppé du nuage de fumée bleutée du feu qu'il ravivait. « Je ne suis pas partie pour t'oublier, je ne peux t'oublier, tu es mon jour suivant. Je suis allée demander à l'aurore les couleurs de mon amour. Avec, j'ai érigé un chemin entre le ciel et la terre, où nous pourrons aller ensemble, penser ensemble, voler ensemble. Il y fait toujours beau, c'est là que dansent et chantent les oiseaux. Il y règne une paix immuable. Lève la tête et regarde. » Dans la douceur du matin, les puissants rayons du soleil pénétraient les sombres nuages de l'horizon, donnant naissance à une gigantesque arche lumineuse. « Qu'est-ce que cela ?» interrogea la jeune femme. « C'est Yuluwire, l'arc-en-ciel, le reflet de mon amour sur ta peine lointaine. » Déréré courut dans les bras de Bibi. « Tu es mon jour suivant, » murmura-t-elle. « Je sais désormais que plus jamais je ne me réveillerai les yeux en pleurs. » Et c'est ainsi que Bibi prit sous son aile Déréré et ses quatre enfants, pour les mener dans son monde haut en couleurs, lui offrant son amour, lui faisant oublier sa peur.
Merci pour votre écoute et à chacun son jour suivant.